On est dans ma caravane, je m'appelle Bartabas. Je suis l'âme du théâtre équestre Zingaro, voilà, qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant.
Et on entend quoi comme son dans la caravane aux différentes heures de la journée?
On entend ce qu'on perçoit du monde extérieur. C'est ça qui me plaît dans une caravane. C'est que vous n'êtes jamais coupé de la nature, que ce soit au niveau sonore ou que ce soit au niveau climatique. Quand il fait très chaud, vous avez très chaud. Quand il fait très froid, même avec un chauffage, vous avez froid. Surtout quand les tuyaux sont gelés. Voilà. Et puis voilà, la nuit, vous entendez la pluie qui tombe sur le toit. Donc, vous restez toujours en contact un peu avec l'élément. C'est ce qui me plaît, parce que nous sommes, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes faits pour vivre sur Terre, donc au contact des éléments. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans un appartement qui a la même température pendant 12 mois de l'année.
Et à 5h du matin, quand vous ouvrez l'œil, c'est silencieux?
Non, il y a déjà les corbeaux qui se réveillent un peu. Et puis, on peut même percevoir un peu les chevaux, parce qu'en général, comme on nourrit vers 6h moins le quart, 5h30, 6h moins le quart, ils sont réglés. Déjà, ils commencent à s'impatienter. Voilà.
Il est 20h sur France Culture et, comme Don Quichotte, je veux que l'imaginaire soit vrai. C'est Bartabas qui parle. Bartabas qui vit et crée en pirate depuis plus de 30 ans, en ayant inventé ce lieu utopique, Zingaro, qu'on rejoint en descendant à la station de métro Fort d'Aubervilliers. On entre dans un lieu avec caravane, cabane dans les arbres, chapiteau en bois, écurie, en pleine ville. Don Quichotte a réussi, l'imaginaire est devenu vrai. Dans le récit d'un cheval l'autre, son premier livre paru chez Gallimard, on peut lire « Je suis Bartabas, le furieux, l'homme qui, à cheval, va mesurer le monde ». Bartabas aurait pu rester Clément Marty, il aurait pu rester à Courbevoie où il est né et avoir une vie confortable, mais à 8 ans, il tombe amoureux des chevaux et ne lâche jamais l'idée qu'il y a des choses grandioses à faire. Il part en voyage et il y est toujours. Il inventera une nouvelle forme de vie et une nouvelle forme d'art. À 17 ans, il y a l'accident de moto, mais à 19 ans, la création du théâtre emporté et puis du cirque à Ligre avant la création de Zingaro. Avec son premier cheval, il fera un pacte. Il écrit « J'allais contaminer son animalité et il allait me permettre d'exister parmi les hommes ». Alors depuis plus de 40 ans, il compare ses chevaux à des danseurs et tombe encore amoureux puisqu'il dit en parlant du cheval Tsar « Il en est des chevaux comme des coups de foudre, il vous tombe dessus par hasard ». Il a cru arrêter, après avoir été au plus profond de la recherche sur la relation entre l'homme et l'animal. Et puis, il continue, il parle de sacerdoce. Et son amour pour les cultures nomades lui a fait créer l'an dernier le premier cabaret de l'exil autour de la musique klezmer. Cet automne, ce seront les Irish Travelers avec le chanteur Thomas McCarthy, qui vient de cette communauté nomade d'Irlande et qui porte dans sa voix l'homme qui, à cheval, mesure encore le monde. Nous sommes dans la caravane verte et rouge de Bartabas. La nouvelle création du théâtre équestre Zingaro s'appelle Cabaret de l'exil, Irish Travelers. Nous nous sommes invités en répétition 10 jours avant la première qui sera le 18 octobre prochain à Aubervilliers. Le chanteur irlandais Thomas McCarthy nous rejoindra. Il parlera français grâce à Marguerite Capel. En attendant, on s'est installé autour de la table, dans la caravane. Yann, le technicien, tient une perche avec le micro pour Bartabas.
Allez me balader ça devant le nez, comme ça, pendant tout le truc.
Ouais, ça peut passer.
Vous voulez pas me mettre un truc sur un pied? Que je sois tranquille?
Je peux.
Prenez pour un cheval ou quoi? Hein?
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture.
Et vous, qui vous êtes toujours un peu méfié des mots, comme vous dites, et qui aimez les entretiens silencieux, puisque c'est aussi le titre d'un des derniers spectacles avec le cheval Tsar, est-ce que ça, ça change un peu avec le temps ou pas?
Vous voulez dire ça s'arrange? Non. Ça s'arrange pas avec le temps. Bah, disons que c'est le pop du Zingaro, hein, c'est que tu étais un peu tiraillé entre deux univers. Hein, c'est-à-dire que la troupe, par principe, c'est le contact avec l'autre, c'est la générosité, être à l'écoute. Donc des humains et des chevaux qui font partie de la compagnie. Et l'écriture, comme le dressage d'ailleurs, c'est-à-dire monter le matin, monter à cheval, c'est quelque chose de très solitaire en fait. On est face à soi-même, le cheval est comme un miroir, il vous renvoie ce que vous êtes capable de lui offrir, de lui proposer en tout cas. Et donc ça c'est une démarche comme l'écriture d'ailleurs, qui isole complètement de l'extérieur, c'est-à-dire qui est tournée vers soi-même, vers l'intérieur en fait. Donc les deux sont assez contradictoires effectivement. C'est pour ça que je pratique le premier très tôt le matin et le reste de la journée c'est pour les autres.
Et en même temps, on en parlera parce que c'est un beau récit, mais vous avez écrit D'un cheval l'autre qui est apparu chez Gallimard. Et là, vous avez mis en mots les chevaux que vous avez fréquentés au long de votre vie.
Oui, bah disons que c'est mon premier livre. J'en ai commis un deuxième depuis. Et Les Cantiques du Corbeau. Et c'est vrai que j'ai eu un peu une révélation quoi, par rapport à l'écriture. J'avais toujours dit que je me mettrais à écrire quand je pourrais plus monter à cheval. Et comme j'avais trop de respect pour la littérature, pour le faire d'une manière trop légère, on va dire, ou en tout cas de tricher sur le... Donc c'est un véritable... Je me suis découvert un vieux jeune écrivain, on va dire. Ce qui pose problème d'ailleurs maintenant. Enfin, il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que ça dans la vie. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez contradictoire. J'ai réalisé les rêves de ma vie en faisant Zingaro, puisque voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Ça a même pris des proportions que je n'aurais même pas imaginé jeune, quoi. Et maintenant, tout d'un coup, je me découvre une passion pour l'écriture et je me rends bien compte inconsciemment que ça va être très difficile de gérer les deux, quoi. Mais bon, on verra bien.
Et ce moment-là, vous l'aimez de répétition, 15 jours avant une première? Parce que le temps, il est long avant...
La vérité, c'est que non, parce que moi, maintenant, comme mes chevaux, j'ai appris à lutter contre le stress. C'est-à-dire que souvent, pour les comédiens, on dit que c'est bon d'avoir du trac, ça stimule l'artiste. Mais pour les chevaux, c'est exactement le contraire. Les chevaux vous perçoivent par votre énergie intérieure. Donc tout mon travail et ce que j'essaie d'inculquer aux gens de la compagnie, c'est justement d'être le plus naturel possible, d'être le plus normal, entre guillemets, possible, de façon à ce que... Le cheval ne vous perçoive pas stressé parce que lui ne peut pas comprendre pourquoi il fait ça. Donc il faut pour lui essayer de maintenir une confiance réciproque que vous avez construite pendant des années, essayer de ne pas la trahir par un comportement qui serait anormal, qui est pour vous normal parce que vous savez pourquoi vous êtes comme ça, mais pour le cheval, incompréhensible. Donc c'est des périodes un peu avant comme ça qui ne m'intéressent pas trop en fait, parce qu'elles sont trop,
parce que là, vous l'êtes
trop stressantes. Quoi. Et donc j'essaye de me calmer.
Et quand vous parlez du début d'une création, vous parlez souvent évidemment du cheval et du fait que ça part de lui. Oui. Et j'avais envie de vous faire écouter la voix d'André Velter en 2001, qui fait un peu écho à ça.
Quelqu'un comme Bartabas, quand on lui dit « Mais comment est-ce que vous avez réussi à faire danser tel vinaigre ou enfin l'un de ses chevaux célèbres ?» Il explique toujours que le plus important, c'est le temps qu'il passe en silence à les regarder. Et il demande au cheval ce que le cheval lui a montré qu'il était prêt à faire. Et il essaye simplement de lui dire « Souviens-toi ce que tu m'as fait tel jour à telle heure ». Alors parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de contraindre le cheval à faire ce que lui a décidé qu'il ferait. Et je trouve que dans le dernier spectacle, dans Triptyque, il y a vraiment une scène sublime de ce point de vue. C'est la deuxième partie du Sacre du Printemps, où il lâche trois poulains qui, pendant 10 minutes, font strictement, apparemment, ce qu'ils veulent, sans aucune coercition, d'aucune sortie. Ils sont libres dans l'espace, dans le cirque, enfin dans l'arène plutôt. Et il n'y a qu'à la fin où on voit en effet qu'ils ont suivi même la musique, puisqu'ils acceptent de faire et de finir le numéro pour lequel ils étaient entrés. Mais au début, il n'y a aucune contrainte de personne. Et c'est uniquement en les voyant auprès se batifoler de cette façon-là qu'il a eu envie de les mettre sur scène.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites différemment. C'est sûr que pour simplifier ma position par rapport aux chevaux, c'est toujours de, d'abord c'est de dire que le cheval parfait n'existe pas, comme l'homme parfait n'existe pas. Donc il faut, à partir du moment où il rentre dans notre famille, il faut savoir l'accepter avec ses qualités et ses défauts, et voire même de ses défauts en faire des qualités. C'est comme le charme chez une personne, on va dire, il n'y a pas de critères. Il peut avoir un grand nez, un grand cou, un petit... Et avoir beaucoup de charme, on peut pas le... Les chevaux, c'est un peu la même chose. Voilà, il faut accepter tels qu'ils sont et puis détecter chez eux ce qu'il y a d'intéressant à mettre en valeur, quoi. Donc ça, ça demande beaucoup d'observation. Et puis après, effectivement, c'est un travail quotidien qui se fait progressivement, toujours dans le respect de son intégrité physique et psychologique. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, faut bien qu'on comprenne qu'un danseur, un musicien peut accepter de souffrir parce qu'il sait pourquoi il fait ça. Donc il va faire des gammes pendant des heures, il va faire des barres pendant des heures pour travailler son écart facial, pour travailler telle partie de son corps parce qu'il sait qu'il a un défaut là-dessus, que pour faire sa performance, il va falloir qu'il s'améliore. Le cheval, lui, ne sait pas pourquoi il fait ça. Donc vous devez l'amener un état Y, de donner à ce qu'on appelle un air d'école, un mouvement, en passant par des X prime, X seconde, etc., très progressivement, de façon à ce que quand vous lui demandez la chose, il a été préparé et physiquement et psychologiquement à vous la donner avec envie, avec grâce. J'insiste là-dessus, parce que c'est là qu'on veut parler d'art équestre par rapport à l'art de dresser un caniche ou un éléphant. Et voilà, c'est pas compliqué. Il monte sur le tabouret, il a bien fait son travail, il a une feuille de salade ou un morceau de viande, selon ce que c'est comme animal, comme les gens d'ailleurs. Il a bien travaillé, il a son salaire, il a un bon salaire. Ça, c'est assez clair. Mais là, on parle pas de ça. On parle de travailler sur la qualité du geste. C'est pas donner un geste, c'est le donner avec grâce et avec émotion. C'est-à-dire, oui, je te propose et toi, tu disposes. En tant que cheval. Et donc, la manière dont tu vas disposer, c'est ça qui va faire la grâce du mouvement, et qui va faire que ça va être expressif, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à maintenir, parce qu'on est toujours en équilibre entre la gymnastique, puisqu'il faut quand même que le cheval se muscle comme un danseur, sinon il veut, mais il ne peut pas le faire. Et si vous allez trop loin dans la mécanisation, il va vous le faire, mais de manière éteinte, voire abrutie, voire bon, c'est ce qu'on voit souvent, justement, dans les cirques, ça, où c'est du par cœur qui n'a aucun intérêt, quoi. Donc, cette petite frange est très tenue et c'est la clé de tout, en fait. J'avais un vieux maître qui disait, ça a été pour moi la leçon de ma vie, quoi. Il disait, bon, déjà, le bon dresseur, c'est celui qui sait simplement quand demander, quand récompenser. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Quand il faut aller un peu plus loin et quand il faut se contenter de ce qui a été donné, quoi. C'est ce qui est la clé de toute progression dans l'éducation. Et la deuxième, il disait, l'idéal serait de pouvoir récompenser le cheval quand il a eu l'idée de vous donner le mouvement que vous lui demandez. C'est-à-dire, vous ne le laissez même pas l'exécuter, il va se grandir, il va commencer le mouvement, vous rendez tout de suite, vous caressez. Et donc, avec ça, vous construisez un rapport d'envie, parce que le cheval va vous le redonner ensuite avec d'autant plus de générosité que ça ne lui a coûté aucun effort, quoi, déjà. Et en plus, voilà, vous maintenez cette petite étincelle qui est très importante, surtout quand tu fais du spectacle où tu es amené à répéter quand même le même spectacle pendant parfois deux ans et demi dans le monde entier. Donc, on lutte contre justement cette mécanisation, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu contenu dans le rapport à l'observation de l'animal. Ensuite, c'est vrai que ce que disait André est assez juste, c'est-à-dire que l'arrivée de chevaux dans la compagnie peuvent être même source d'inspiration de tableaux, quoi. Parce qu'ils sont là, ça me donne l'idée de faire ça. Comme pour les gens, d'ailleurs. Les gens qui sont engagés dans la compagnie ne sont pas engagés pour jouer un rôle, à part les musiciens qui sont invités à chaque création. Mais la base de la compagnie, ce sont des gens comme dans une compagnie de danse, ils rentrent parce que, pour plein de raisons, parce qu'ils m'ont plu. Souvent, moi, ce que je regarde, c'est le moteur intérieur. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement l'aspect physique ni la performance. C'est qu'est-ce qui l'émeut? Qu'est-ce qui fait qu'il bouge encore, quoi?
Et au départ d'une création comme là, ce deuxième chapitre de Cabaret de l'Exil, est-ce que la rencontre avec la musique et les musiciens arrive au tout début, puisque là, la relation entre l'animal et la musique est là, donc celle des Irish Travellers est au centre.
Bien sûr, au niveau de la création du message, de ce qu'on a envie de construire, c'est, enfin, moi, j'ai toujours, mon travail est très, très musical. Hein. Donc, c'est d'abord la musique, rarement même des textes intelligibles. J'ai fait deux fois sur scène des spectacles entre-aperçus avec des textes de Ségalène et le Centaure et l'animal avec les chants de Mal d'Aurore. Mais dans le cabaret précédent, il y avait quelques textes de Singer que j'avais, parce que j'avais besoin d'un langage intelligible, mais je lutte toujours contre ça, je sais pas, inconsciemment. Peut-être maintenant que je me mets à écrire, je peux commencer à m'adresser aux spectateurs avec un langage intelligible. Mais pour moi, il y avait presque une contradiction. C'est-à-dire que les images qui sont produites par le travail à cheval, qui est quelque chose de très ancestral, qui est ancré en nous, hein, dans l'inconscient collectif des gens, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que même le cheval ne fait évidemment plus partie du quotidien des gens maintenant. Mais tout même, ça commence gamin à l'école, les images dans les livres de classe. Le cheval reste associé à l'inconscient collectif de manière assez incroyable. Et d'ailleurs, parfois difficile. Hein. Parce que souvent, il est associé à l'image du pouvoir, du puissant. Le puissant est à cheval, le faible est à pied, etc., etc. Donc, c'est des images contre lesquelles je dois lutter. Le côté aussi dominateur du cavalier, enfin, la violence, même guerrière. Donc, ça, c'est des choses qui souvent ne m'intéressent pas beaucoup. Mais je dois lutter contre cet inconscient. Quand un spectateur, comme ça, à premier abord, voit arriver un homme sur un cheval, qu'est-ce qu'il pense? Il pense tout de suite, en général, puissance, guerrière, etc. Donc, il faut... Mon travail n'est évidemment pas du tout sur ce registre-là. Donc là, il y a tout un travail d'approche quoi, différente. Mais les images proposées par le travail à cheval sont des choses qui... Enfin, moi, je dis ça de manière très brute, comme ça, je dis ça parle d'abord aux tripes et ensuite, ça renvoie à une réflexion. Alors que le texte intelligible, par principe, s'adresse d'abord à l'intellect et ensuite, s'il est très fort, vous renvoie, vous secoue intérieurement, quoi. Donc, moi, je l'explique comme ça de manière assez simpliste, mais je trouve qu'elle est assez juste, quoi. Et donc, j'ai toujours eu du mal. Et là, par exemple, dans ce spectacle-là, c'est intéressant puisque je travaille avec un chanteur Travellers, qui est Thomas McCarthy, qui est une espèce de légende vivante, quoi, puisqu'il a en lui plus de milliers de chants de sa famille, qui est pratiquement le seul à connaître, quoi. Donc c'est une espèce de mémoire, quoi. Or ces chants, bon, outre sa voix qui est magnifique, son trémolo, enfin moi ça me touche beaucoup, même si je comprends pas les paroles, mais les paroles sont importantes puisque c'est un conteur quand même, quoi. Et donc là j'avais un dilemme par exemple dans cette création. Je me dis, je vais pas mettre des sous-titres, c'est pas possible, surtout sur un espace circulaire. Puis même, je trouve que ça gâche l'émotion de l'écoute, quoi. Et donc là j'ai choisi quelque chose d'assez particulier. Ça, j'ai écrit ou parfois sont même des extraits des chants. Qui sont dit, ces deux phrases-là, qui sont dites en ouverture par un cavalier, à chaque fois différent, avant chaque chant. Donc le spectateur l'interprétera comme il veut. Soit il peut dire, tiens, c'est mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, et hop, le chant commence. Ou alors c'est juste quelques phrases qui donnent une réflexion et qui permettent d'écouter le chant, même si on ne comprend pas les paroles, mais avec une certaine idée, quoi. Et j'aime bien, enfin moi ça me séduit assez, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que ça apprend des choses aux gens, ça donne des directions. Mais en même temps, ça laisse toute sa part à l'imaginaire, quoi.
Quand quelqu'un meurt, nous buvons pour lui pardonner. Lui pardonner de nous avoir laissé quelque chose à pleurer.
What have you for your dinner now, my darling wife? What have you for your dinner, my comfort and my joy? I've had red beef and cold pies in my door dress, my bed zone. I have this pain in my heart.
Pour moi, la musique, c'est l'art premier, hein. Avant la requête, avant tout ce que vous voulez, avant le théâtre, parce que c'est à ma connaissance, c'est la seule discipline artistique qui s'adresse aux humains au-delà de leur propre culture. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné depuis 40 ans, c'est pour ça que j'ai fait Zingaro, hein. C'est comment un gamin de Courbevoie va pleurer aux larmes en écoutant une chanteuse de pansori coréenne ou un chanteur du Rajasthan, alors qu'il ne connaît ni les paroles, ni la langue, évidemment, ni la culture, ni les traditions. Et pourtant, ça nous touche.
Parce que justement, vous êtes intéressé souvent aux cultures ancestrales, que ce soit indiennes, tibétaines, mexicaines. Et là, avec les Irish Travelers, qu'est-ce qui vous parle, vous ? Parce que c'est un peuple nomade, évidemment, cavalier.
Qui invente
son propre mode de vie.
Côté nomade. Parce que Zingaro, faut pas oublier qu'on est quand même dans tous les sens du terme, on est nomade. Enfin, moi maintenant, parce qu'on a arrêté de tourner, un peu comme justement les Travelers de maintenant qu'on cherche à fixer. Donc on avait toujours nos caravanes, mais enfin maintenant on reste à Aubervilliers pour des tas de raisons. Depuis le confinement, j'ai arrêté les grandes tournées dans le monde entier, c'était trop lourd. Mais enfin, même en voyageant avec 40 chevaux en avion, on reste des nomades, quoi. C'est-à-dire que toute l'année, on est tout le temps en mouvement. Et j'allais dire, on est même en mouvement et nomades par rapport au milieu de la culture aussi. C'est-à-dire que moi, ça fait ma réputation. Je suis un peu à part dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je suis sans compromis et je refuse l'installation, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez étrange que depuis que j'ai écrit les Cantiques du Corbeau, j'ai une vraie réflexion là-dessus, sur l'origine de l'humanité. Moi, je pense que l'homme, l'animal humain est un nomade. D'ailleurs, maintenant, on commence à le découvrir avec les recherches ADN. On s'aperçoit qu'en fait, l'homme n'est pas né dans une région, mais en même temps, partout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a fait que voyager. C'est un migrateur, en fait. L'être humain est un migrateur, il n'est pas fait pour se fixer. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend très proche, évidemment, parce que Zingaro, il faut savoir qu'on n'est pas de famille de voyageurs. Hein. On vit en caravane par choix. Hein.
Oui, parce que vous auriez pu... Vous êtes né à Courbevoie, vos parents étaient architectes,
exactement,
médecins. Donc, vous auriez pu avoir une vie, entre guillemets, normale, comme on l'appelle.
Exactement.
Et vous avez voulu en découdre avec cette vie-là.
Oui, puis c'est, enfin, comme tout dans ma vie, c'est les chevaux qui m'ont imposé ça, en fait. Parce que quand on est avec des chevaux, c'est comme des enfants, hein. C'est-à-dire, un cheval, c'est comme un enfant de 4 ans, hein. C'est-à-dire qu'il va mettre les doigts dans les prises si tu fais pas gaffe, il va renverser tel truc si tu fais pas attention. Les chevaux, c'est pareil. Donc, à partir du moment où tu les amènes dans ton monde, et encore une fois, ils ont pas choisi de venir là, donc on leur doit d'autant plus d'amour et d'attention que contrairement aux cavaliers, ils ont pas choisi de venir travailler à Zingaro. On est obligé de les surveiller 24 heures sur 24, en fait. Jour et nuit, c'est de là que ça vient. On habite là parce que s'il y a un problème la nuit, on peut pas dire, ah ben non, je l'ai rangé à 18 heures, je le reprendrai demain matin. Non. Donc voilà, ça c'est la vraie raison technique. Et ça a engendré une philosophie de vie. Et je vous dis aussi une philosophie de vie dans ma relation à la... J'allais dire pas à l'art, c'est un bien grand mot, mais dans ma relation au monde culturel, on va dire, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai jamais voulu appartenir à aucune chapelle, à aucun... Voilà, je trace ma route comme ça avec les spectateurs. Et ça, c'est quelque chose qui me rend très... très solidaire, on va dire, avec les Travelers d'aujourd'hui. Il faut savoir que les Travelers, pour les gens qui connaissent pas quand même, c'est très intéressant, c'est que c'est un peuple donc de voyageurs, hein, alors qui est effectivement assez proche des chevaux, qui était il y a très très longtemps à l'origine, c'était des ils travaillaient le métal, donc même au temps des clans, ils fabriquaient les armes, les bijoux. Voilà, donc ils étaient déjà itinérants parce qu'ils allaient de tribu en tribu pour fabriquer, voilà, donc ils sont parmi les plus anciens habitants d'Irlande. Ça, on l'a découvert il n'y a pas très très longtemps, hein, avec les recherches ADN. Donc c'est très intéressant parce qu'ils sont victimes d'une relation, du fait de leur mode de vie, comme on pourrait appeler en France ou en Europe les Roms ou les Tziganes, on va dire. Mais la grande différence, c'est contrairement à un Rome qui traverse des pays et qui est d'origine d'autres sources, par exemple qu'en France, en Irlande, ce sont des habitants de l'Irlande. Donc c'est pour ça que le thème étant l'exil, j'avais envie de traiter ça, parce que pour moi, ils sont en exil dans leur propre pays. Mais voilà, donc des gens comme par exemple Thomas McCarthy ou les musiques qui sont jouées, ce sont des musiques très vieilles qui sont en train de disparaître. Hein. C'est les musiques de ses grands-parents, enfin il vous racontera sans doute de sa grand-mère.
Il y a vraiment une fonction sociale aussi.
Et alors voilà, mais lui il est passionnant s'il arrive à vous parler de ça. C'est-à-dire qu'il raconte, dit vite en forme de boutade, bon ça c'est un peu l'image, mais c'est son arrière-grand-père qui disait quand on arrivait dans les villages, les villageois repeignaient le village. Avant notre arrivée, pour bien dire comment l'arrivée des voyageurs était un événement. Il faut bien savoir qu'en Irlande, encore dans les années 70, les gens dans les petits villages n'avaient ni la télé, ni la radio. Pas de France Culture, rien du tout. Hein. Donc quand les Travelers arrivaient, c'était déjà la veillée, c'était les récits, les chants, les musiques, les nouvelles, parce qu'ils amenaient les nouvelles de leur famille qui était à 50 bornes. Et c'est pas tellement par pauvreté, ils étaient très pauvres, mais surtout, ils travaillaient du lever du soleil au coucher du soleil, quoi. Donc, même s'acheter des habits en ville, ils pouvaient pas le faire. Donc, par exemple, ils achetaient des habits à Dublin et ils vendaient les vêtements. Ils leur servaient, ils avaient une fonction sociale, quoi.
On va essayer de trouver Thomas McCarthy, quelque part.
Si vous arrivez à le trouver. Bon courage.
Dans Cabaret de l'exil, Thomas McCarthy est assis face à la piste et il interprète certains des chants qu'il est le seul à connaître, lui l'héritier d'une grande famille de travelers. Il nous a rejoints dans la caravane. Son grand-père maternel, Johnny McCarthy, était un grand chanteur et un Sinachi, conteur gaélique de la communauté nomade et cavalière des travelers. On a donc commencé à parler de sa famille.
They weren't originally traveling people.
Au départ, ils ne voyageaient pas, ils n'étaient pas nomades.
They were put off their land
ils ont été chassés de leur terre par les Anglais. Après la bataille de Kinsale, en 1603.
And then they became traveling people.
Et c'est là qu'ils
like
sont devenus
some other families.
Des voyageurs, des nomades, comme d'autres familles.
Et d'où venaient toutes les chansons que votre grand-père chantait ?
They would have come from all over the country.
C'était des chansons qui venaient de
Because
tout le pays,
traveled,
parce qu'ils voyageaient, justement.
Other people weren't allowed to travel.
Ils voyageaient à une époque où les autres n'avaient pas le droit de voyager. Les gens qui habitaient des maisons étaient empêchés par des lois édictées par les Anglais qui empêchaient les gens de quitter leur district, alors que les travelers ont voyagé pendant des milliers d'années. Ça remonte à l'Antiquité. Ils se déplaçaient dans toutes les tribus gaéliques. Ça remonte au XVIe siècle. Ils étaient alors fabricants d'armes. Ils forgeaient les armes pour toutes les tribus irlandaises.
And then the government, the Taoiseach.
Et puis le gouvernement, le Taoiseach qui est le premier ministre, qui en gros dirige le pays en 1963, a fait ce qu'on appelle les signalements d'itinérance, les rapports sur l'itinérance. En fait, quand vous regardez en ligne, vous verrez que le vocabulaire utilisé dans ces réglementations est un vocabulaire nazi.
He actually made the statement.
Il a en réalité déclaré. Il a une fois posé la question de savoir quelle était la solution finale pour les travelers. Le dernier à avoir utilisé ces termes-là, c'était bien sûr Hitler. Donc, effectivement, nous ne nous en sortons pas très bien avec le gouvernement irlandais qui n'a jamais été de notre côté, qui n'a jamais été du côté des travelers. En Irlande, il y a eu un sondage. 85% des Irlandais disent qu'ils ne travailleraient pas avec un traveler. 80%, c'était en fait même 90%, je crois, qui disaient qu'ils n'épouseraient jamais quelqu'un de la communauté traveler. Donc non, c'est pas facile. Il y a moins de deux mois, cinq jeunes se sont suicidés dans différentes régions de l'île. Ils avaient 9 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans, chacun dans une région différente du pays, à cause du racisme. 9 enfants sur 10 chez les travelers ne vont pas à l'école à cause du racisme. Parfois, le racisme vient des profs eux-mêmes. Donc, on ne peut pas en vouloir à un enfant de ne pas avoir envie de se soumettre à ça, de se soumettre à ce que moi j'ai subi.
Et malgré toutes ces difficultés, comment la culture travelers se transmet à l'intérieur de la famille ? Comment votre mère a appris, j'imagine que c'est beaucoup à travers la musique, comment elle a appris les chants, comment vous, vous les avez appris, comment ça se passe la transmission de cette culture-là ?
Because we were ostracized.
Parce que nous étions ostracisés par la société, nous n'avons jamais fait partie de cette société irlandaise et nous n'allons pas voter. Cela a resserré nos liens entre nous, ça a fait de nous une communauté soudée. Nous n'avions que nous autres pour compter les uns sur les autres, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.
Close.
Donc ça nous a énormément rapprochés.
All Irish people sang one time.
Tous les Irlandais ont chanté autrefois, même les sédentaires. Vous pouviez aller dans n'importe quelle maison il y a des années et entendre des chansons. Mais avec l'introduction de la radio dans les années 40,
prime example, my grandfather,
je vous donne un exemple. Mon grand-père était le premier à avoir une radio C'était le premier de son village.
And when they get rid, my mother and her sisters,
ma mère, ses sœurs,
they persuade them, oh,
quand il
avait
une radio, ce sont elles qui avaient insisté.
So we get a radio,
il en a acheté une.
Half of the town,
et la moitié du village
come to listen to
est
radio.
Venue écouter la radio chez lui.
When they turn the radio on,
quand ils allumaient la radio,
everyone got quiet.
Tout le monde se taisait.
And he looked around and
il regardait autour de
after
lui.
One minute, he said,
et au bout d'une minute, il a dit,
take this machine out.
Sortez-moi cette machine de là.
This is a conversation killer.
Ça, c'est vraiment un tueur de conversation.
So the art of conversation,
l'art de la conversation, c'était quelque chose qui avait
cherished.
Beaucoup de valeur.
Your most betrothed store, last night you came, stood on the moonlit floor, and called again my name. In dreams I felt your tears, in dreams my eyes are wet. Oh, dead for 7 long years, can you not forget? Are you not happy yet? The mass bell shall be rung, the mass be said and sung. God will surely hear. Go back and sleep, my dear. My grandfather could listen to a song once.
Comme mon grand-père, qui était capable d'entendre une chanson une fois et de la connaître. Et tous les travelers étaient comme ça autrefois. La vie était tellement difficile que la seule source de divertissement, comme je le disais, avant la radio, avant la télévision, c'était les travelers.
And they would sing for people
qui venaient dans les villages
sédentaires
et chantaient, jouaient pour les gens. Ils n'entendaient jamais de musique. Et donc c'était formidable pour eux et ils étaient toujours les bienvenus. J'ai entendu des histoires formidables sur l'accueil qui leur était réservé partout. Et beaucoup de ces grands artistes devaient venir apprendre en fait les chansons à d'autres. Même aujourd'hui, des jeunes viennent apprendre les chansons auprès de moi parce qu'on a envie que ces chansons survivent. Une chanson, ça ne vit pas sur un bout de papier. Elle est vivante quand on la chante. Et moi, je chante d'une certaine manière. J'utilise ma gorge, j'utilise mon menton d'une certaine façon et ça vient de la cornemuse, de la manière de jouer de la cornemuse. Les premières cornemuses ont été imaginées pour imiter la voix.
The old people used to sing in that style. And now I would be
et
kind
les
of
gens
like the last to sing
qui
in that
chantaient
song.
De cette manière-là, c'était vraiment les anciens. Je suis parmi les derniers. Voilà un exemple.
It's like they say vibrato.
C'est vraiment une manière d'utiliser la gorge, un vibrato. Mais on n'utilise pas ce terme. On parle de warble.
So you could do it from your chin, and the pipes was designed to copy.
Et la cornemuse, elle imite ça.
There was an old man, he lived in the west, his trade was the cotton of brooms, green brooms.
Vous avez l'habitude, Thomas McCarthy, de chanter, évidemment, devant des gens. Est-ce que vous auriez imaginé un jour faire un spectacle comme vous le faites là avec Bartabas, avec des chevaux?
No. This would be the first time.
Non, c'est la première fois.
I'm still kind of amazed by it.
Je suis encore émerveillé par cette idée. C'est quelque chose de très positif.
Nothing has ever been done positive on my culture.
Dans ma culture, il n'y a jamais rien eu de positif au sujet de ma culture. Et donc, je suis encore incrédule à l'idée que ce soit en train de se passer. Bartabas est un homme sage qui est capable, qui a une vision, un visionnaire. Il voit ce que beaucoup de gens ne voient pas.
Combien de chants vous connaissez, vous pensez ?
J'en connais plus de 1200.
From my
mother. Que j'ai rassemblé, que j'ai appris de ma mère. Ma mère était une chanteuse fabuleuse.
She was the best.
C'était la meilleure
out of us all.
de nous tous, c'était la meilleure.
She was a small little lady, but
c'était une petite dame,
big high notes,
mais qui était capable de tenir des notes aiguës qu'aucun de nous ne sommes capables d'atteindre.
So I got most of my songs from her.
Donc la plupart de mes chansons me viennent d'elle.
And she in turn got them from her father.
Et elle les tenait aussi de son père et de sa mère, qui était aussi une très grande chanteuse, mais qui est morte alors qu'ils étaient tous très jeunes, ses enfants, ma mère, ses frères et sœurs.
Is known in Ireland as a Shanachie.
Mon grand-père est connu en Irlande comme étant un Shanachie, c'est-à-dire un conteur, mais aussi un historien. Mon grand-père pouvait vous raconter la généalogie des peuples d'Irlande. Il pouvait vous dire qui vous étiez, d'où vous veniez. Si vous donniez votre nom à mon grand-père, il vous révélait qui étaient vos ancêtres, d'où ils venaient, quel rôle ils jouaient dans la société, quelles batailles ils avaient combattues, contre qui ils s'étaient battus.
Tout
ça a disparu, mais mon grand-père et ses trois frères donc, étaient quatre Shanachies, quatre conteurs. C'était des gens incroyables. Mon grand-père était capable de commencer une histoire à 7 ou 8 heures le soir et à 2 heures du matin. Il vous disait, rentrez chez vous, allez travailler, revenez demain. Demain soir, à 7h, pour la suite de l'histoire.
Il y avait
des gens dans notre village qui vous diront que parfois, une histoire pouvait durer une semaine, voire plus. Donc, c'était des histoires qui duraient des heures et des heures. Et j'en connais, moi aussi. Je les ai recueillies auprès d'eux. Je connais plus de 400 histoires.
I know them from I was this young.
Et je les connais depuis tout petit.
From 5 years of age.
Depuis mes 5-6 ans.
As a child,
parce qu'enfant,
would be into the stories where you wouldn't
on écoutait ces histoires de la même façon qu'on écoute une chanson.
Donc là, on pourrait passer une semaine dans la caravane de Zingaro à écouter des histoires. Mais c'est l'heure du filage.
I could talk the ears off an elephant.
Je pourrais parler jusqu'à lasser les oreilles d'un éléphant.
Bon, on va y aller. Donc vous êtes au courant, je sors pas de ça, je le ferai à pied juste autour. Hein. Allez.
Chevaux d'Aubervilliers ont rendu l'âme cavalière. Les chevaux juste là derrière le cimetière répondent à mes prières. Un cabanon au milieu du campement, juste comme une maison d'enfant, résonne d'une course de nos cœurs battants. Et dans un galop apaisant ondule la marche des sentiments. Et si la caravane s'en va, je m'en vais avec elle. Et c'est mon chien qui aboie, car lui aussi l'a trouvé si belle.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes toujours à Zingaro, à côté du chapiteau dessiné par Patrick Bouchain, des écuries, à 10 jours de la première de Cabaret de l'Exil, Irish Travelers, où les cavaliers partagent la scène avec les chevaux. Et nous retrouvons Bartabas dans sa caravane.
Vous aviez dit « j'aurais aimé vivre 100 ans plus tôt », c'est toujours vrai ?
Oui, bah c'est sûr que j'aurais bien voulu me lever le matin, voir 200 chevaux sur l'avenue qui passent. Comme pour un Argus, pour en acheter, c'est pratique, tu peux voir. T'as ton outil de travail. Oui, bah oui, oui. Enfin, disons que c'est un aspect important. Le rapport à l'animal, évidemment, pour nous, et enfin pour moi, en tout cas, il est fondamental parce qu'il me permet de Il me permet de me calmer, de comprendre l'humain, de rester encore une fois, et la caravane et le fait de côtoyer les chevaux me permet de rester, même si c'est à Aubervilliers dans le 9-3, en contact, ce que j'appelle en contact avec la nature. Être en contact avec la nature, c'est pas aller dans l'Himalaya, hein. Enfin, pas que, en tout cas. Le contact avec la nature, encore une fois, tu peux l'avoir en hiver, quand tu es obligé d'aller pisser dehors parce que les tuyaux sont gelés, voilà, ou en été, même en ouvrant tout, il fait une chaleur à crever, c'est un véritable four, cette caravane, donc tu es obligé de dormir dessous. Je veux dire, ça paraît tout bête, mais c'est se rendre compte, d'avoir l'humilité de se rendre compte que l'on vit au rythme des saisons. C'est tout bête, c'est des choses toutes bêtes, quoi.
Et ce qui vous lie aussi aux travelers, c'est pas un rapport, enfin, et au nomadisme et à l'exil, c'est un rapport au présent, parce que vous parlez souvent aussi du rapport au temps et de la relation à l'animal, au cheval, qui, là, c'est un petit extrait d'un cheval l'autre, justement, ce récit, où vous dites, je n'ai jamais eu la mémoire pour boussole, vivre avec eux m'a déconnecté du passé et de l'avenir des hommes, avec les chevaux, je navigue au présent. Donc, ouais. Il y a quelque chose, il y a un rapport très particulier, intense avec le présent, que l'exil
oui.
Impose.
Il y a le moment, c'est-à-dire que le... Enfin, faut bien comprendre d'abord ce que ça veut dire côtoyer un cheval tous les jours pendant une quinzaine d'années, par exemple, le même cheval. Donc c'est comme si vous aviez un entretien silencieux avec la même personne tous les jours pendant 20 ans, quoi.
Et vous parlez,
tous les jours,
vous
hein.
Parlez de pacte aussi, par exemple. Et avec
oui,
Zingar.
Donc vous construisez quelque chose de... Mais qui vous, encore une fois, je ne suis pas idiot, c'est quand même un cheval, vous êtes un être humain. Vous avez, même si vous avez construit un dialogue, un vocabulaire commun, donc vous exprimez, avec lui, vous êtes à son écoute, c'est quand même, voilà, vous êtes face à vous-même quand même dans ce jeu-là, quoi. Ça, c'est assez important, hein. Et donc le rapport est forcément positif. Je vais dire ça de manière simple. Vous levez le matin, le cheval vous regarde, il dit, bon, ce matin, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas d'un humain, déjà. Bon, déjà, donc, et vous êtes obligé de fournir. Vous pouvez, c'est intéressant dans un rapport même à l'art, vous pouvez pas être nihiliste. Vous pouvez pas dire, moi je sais dessiner, mais le dessin c'est terminé, je vais faire un point et un trait, et voilà, et comme ça je vais montrer que non. Vous pouvez pas travailler par la négative, vous êtes obligé de fournir, vous êtes obligé d'être positif. Donc déjà, ça c'est une leçon de vie, je trouve. C'est-à-dire que voilà, tu es obligé d'être à l'écoute de l'autre, et puis donner, quoi. Et tu peux pas dire, rester dans ton coin. Donc ça, c'est important. L'animal t'apprend ça. Hein. Et puis après, il y a cette partie, mais là, c'est très intime, hein. Je sais même pas si ça se voit dans les spectacles. C'est comment tout d'un coup, jour, après tant d'années, le glissement progressif se fait, où vous avez en tout cas la faiblesse de croire que ce n'est plus tout à fait un cheval. Il a quelque chose d'humain, pas dans son comportement comme pourrait l'être un épagneul. Vous allez dire, oh, regarde, il me regarde, il a l'air triste. Non, parce que juste il a des cernes et qu'il vous fait penser à un humain. Moi, je ne parle pas du tout de ça. Le cheval ne sera jamais un animal de compagnie, hein. C'est vraiment un rapport de travail. Pour moi, c'est très important, hein. C'est pas aller chercher la panthère des neiges. Non, c'est travailler quotidiennement avec l'animal, et l'animal vous construit et vous construisez avec lui, quoi. Et par cet apprentissage, par cet échange, par ce travail, tout d'un coup, le cheval s'élève à un niveau de perception qui fait qu'il a peut-être appris des choses. Voilà, je ne sais pas, j'ai la faiblesse de croire que quelque part vous avez élevé son esprit, quoi. Et lui, en échange, vous a appris à vous écouter quelque part, quoi.
Vous a fait penser après un spectacle, je pense à Ex Anima, où vous aviez mis les chevaux au centre et les cavaliers.
Il n'y avait plus de cavaliers.
Voilà, avaient disparu. Qu'est-ce qui vous a fait penser que peut-être ça allait être le dernier spectacle et que vous alliez arrêter, et qu'est-ce qui fait que finalement vous poursuivez?
En vérité, Ex Anima, c'est la fin d'un cycle pour moi, quoi. Fin d'un cycle d'une vie, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai tout. Comment on pourrait appeler ça? On a souvent dit que j'allais vers l'épure, comme tout artiste honnête avec sa démarche. Qu'est-ce qu'il fait en vieillissant? Il vire tout ce qui ne sert plus à rien et il va à l'essentiel. Et l'essentiel, souvent, c'est le geste simple. C'est-à-dire, tu enlèves tout ce que tu as fait à l'esbrouf et tu n'es plus capable de faire ce que tu faisais jeune. pas du tout parce que physiquement, au contraire, tu as plus de connaissances, mais tu as plus d'exigences. Donc tu vas dire, avant de faire ça, je dois savoir faire ça. Donc tu recules. Puis avant de faire ça, il faut que je sache faire encore ce qu'il y a en dessous. Et tu finis par faire la chose la plus simple, quoi. Et donc, au bout de cette démarche, il y a eu effectivement de dire, voilà, depuis 35 ans, les chevaux nous servent quelque part, ils sont notre moyen d'expression, ils nous servent, on va les servir, on va les mettre en avant, on va se retirer, comme des marionnettistes japonais, on va se tenir dans l'ombre, et on va les laisser exister, on va les laisser s'exprimer, quoi. Donc ça, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Effectivement, après ça, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais là, c'est autre chose. C'est venu après le confinement. Là, pour moi, il y a une nécessité absolue. Ça, c'est mon côté. Voilà, c'est une compagnie mi-hommes, mi-chevaux. Hein. Et donc, la nécessité de revenir à une forme plus conviviale de spectacle. Les gens ont besoin de retrouver un contact, un échange. Et puis, de défendre, voilà, j'allais dire, dans l'humain, ce qui m'intéresse, quoi. Et l'exil, je trouve que c'est un thème... qui m'est pour moi très très cher et qui est très important. Et donc j'avais envie, je me suis dit comme ça, j'ai dit je vais le décliner pendant 4 ans, pourquoi 4, j'en sais rien, j'ai dit ça un jour, donc je suis obligé de le faire. Donc le premier c'est sur le peuple yiddish, qui est vraiment le peuple de l'exil par excellence, quoi. Là c'est plus, ça m'intéresse beaucoup parce que les Irish Travelers, encore une fois, il y a cette notion qui est très proche de nous, quoi, qui est très proche de, enfin nous aux Zingaro, j'entends, quoi. Et le prochain, vous verrez.
Vous diriez que vous êtes en exil dans votre propre pays?
Bah, disons qu'on, oui, on s'est mis en... Bartaba, c'est pas mon vrai nom, comme vous vous en doutez. Donc déjà, vouloir s'appeler, pas avoir son vrai nom, c'est déjà une manière de faire un chemin à part, qui est d'ailleurs... qui n'a rien de rocambolesque. Hein. Il y a encore 200 ans, les comédiens n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Ils avaient tous des noms de scène. C'est de là que vient l'origine des noms de scène, pour ne pas être reconnus, quoi. C'est-à-dire que voilà, le fait de se produire, c'est vivre autrement, pour moi. C'est surtout montrer que derrière ces spectacles, il y a un mode de vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement que les gens sortent en disant « Oh, qu'est-ce qu'ils montent bien à cheval, oh, qu'est-ce qu'ils chantent bien ?» Encore heureux, c'est notre métier. C'est encore heureux qu'on le fait bien, on fait que ça toute la journée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au-delà. C'est que les gens comprennent que pour faire ce qu'ils ont vu, derrière, il y a une philosophie de vie, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue un peu là-dessus. On expose quelque part nos caravanes quand on est en tournée avec notre chapiteau. On le montre, on montre notre mode de vie. Parce que maintenant, les compagnies, les grosses compagnies, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà, il y avait Bro qui reste encore Mouchkine en France. En Italie, il n'y en a pratiquement plus. Dans la danse, voilà, tu avais Pina Bausch, tout ça, c'est en train de disparaître. Et maintenant, le rapport est plus individuel, je trouve, de l'artiste, quoi. Qui d'ailleurs peut avoir des côtés sympathiques. Hein. Ça peut être des assemblages entre amis. Mais chacun a des positions un peu différentes, quoi. Il n'y a pas là, c'est un engagement de vie, quoi.
Et dans cet engagement de vie et ce combat et cette radicalité parfois à penser à un nouveau mode de vie, qu'est-ce qui vient de l'apprentissage de ces années quand vous avez 17-18 ans et que vous commencez dans la rue et que le théâtre emporté commence et puis le cirque à Ligre et qu'il y a cette confrontation avec la rue, les gens qui sont là et...
Ben, d'abord vivre, moi je dirais. Avant d'être un artiste, d'abord vivre. Et apprendre en vivant, quoi. C'est-à-dire que je ne concevais pas la vie, quel que soit le métier, attendre près d'un téléphone qu'on t'appelle pour te proposer un rôle ou un boulot, quoi. Le boulot, tu vas le chercher, tu le fais, c'est ta vie, quoi. Et après, tu payes, hein, il y a quelque chose à payer en échange, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je dis on a tracé notre voie très indépendante, c'est que forcément, quand tu fais aucune école, tu fais partie d'aucune chapelle, hein. Dans tous les métiers, hein, que ce soit dans les médias ou que ce soit en tout, voilà, quand tu as été à une certaine école ou que tu as côtoyé un certain milieu, tu connais, ce qu'on appelle des carnets d'adresses, quoi. Là, tu n'en as pas. Encore aujourd'hui, moi, j'en ai pas. C'est étonnant. C'est-à-dire, tout le monde me connaît, moi, je connais personne. Hein. Non, mais c'est vrai, ça vous paraît, c'est assez incroyable parce que d'abord, moi, je sors très peu déjà. Donc, voilà, tu as choisi une voie qui est sans concession, quoi. C'est-à-dire que. Mais qui te donne aussi une certaine force, quoi, parce que tu es imperméable. Moi, j'ai vu passer, je sais pas combien de ministres de la culture, je sais même plus leur nom. Maintenant, ça m'intéresse plus. Donc voilà, tu finis par prendre une espèce d'indépendance et qui est ta force, quoi, en fait. Il y a un prix à payer en échange, quoi. C'est-à-dire que c'est assez, ça t'isole beaucoup, voire même ça t'isole des autres artistes. Moi, je sais pas, en 40 ans de Zingaro, j'ai dû croiser. Je pourrais vous citer peut-être 3 artistes avec qui j'avais une complicité, c'est tout. Donc voilà, j'appelle une vraie complicité, hein, pas se croiser, dire c'est très bien votre travail, merci, au revoir. où tu as un peu un échange voilà, qui va au-delà même de ce qu'on produit sur scène. Quoi.
Parce que dans les émotions fortes justement de jeunesse, vous parlez de Dario Fo, de Mouchkine, de Luca Ranconi. Est-ce qu'ensuite, il y en a des émotions fortes comme ça qui imprègnent aussi le travail et les envies?
Oui, bah moi par exemple j'ai eu la chance de côtoyer Pina Bausch d'une manière assez intime dans le sens au-delà même de... C'est incroyable d'ailleurs le fil qu'on pouvait tendre entre les deux compagnies. C'était assez étonnant quand on discutait, parce qu'a priori on pourrait dire qu'il n'y a rien à voir, même esthétiquement si on veut, à part le fait de travailler sur des cultures de pays peut-être un peu, voilà, mais bon tu peux te dire c'est deux domaines quand même assez différents et en fait pas du tout quoi. C'est-à-dire la relation avec la compagnie, avec c'est très intéressant quoi. Ça fait partie des peu de gens. Même il y avait beaucoup de, tu pouvais par exemple, nous on est basé à Aubervilliers, qui est quand même le 9-3. Elle était basée à Wuppertal, qui est pas une grande ville, hein, je peux vous le dire. Donc c'est pas gay. Donc voilà. Non, mais c'est important cette notion-là de dire oui, mais quand on travaille, on a envie d'être peinard quoi. On n'a pas envie qu'il y ait tous les jours des journalistes qui viennent vous voir. Donc, on a envie d'être un peu séparés. C'est important parce que, voilà, quand tu es en plein, dans une grande ville, on n'est pas loin de Paris, c'est sûr, mais bon, on est. Enfin, voilà, il y avait plein de. Les chocs pour moi qui ont peut-être déclenché le fait de faire ça. C'est d'abord beaucoup le cinéma. J'étais passionné de cinéma. D'ailleurs, j'ai réalisé plusieurs films, mais j'ai dû choisir un moment, on ne peut pas tout faire. Mais au départ, c'était plutôt le cinéma qui m'intéressait beaucoup. Mais voilà, mes chocs théâtrales, c'est ça. C'est Ariane Mouchkine, l'âge d'or. C'est Dario Fo sur scène. C'est Pina Bausch est venu beaucoup plus tard, quoi. C'est des rencontres déjà de voilà, Zingaro existait déjà. C'est autre chose.
Je vais lire juste deux petits extraits d'un cheval l'autre qui parle justement de Zingaro. Pour bâtir Zingaro, il faut penser être irréductible, il faut croire, vouloir et rêver, et naître ainsi avec beaucoup de naïveté. Comme Don Quichotte, je veux que l'imaginaire soit vrai. Dresser un cheval, c'est un travail de tous les jours, une quête de l'absolu qui refuse l'abstrait et puise sa matière dans la beauté du geste. Mais pour créer ce qui n'existe pas, il faut vivre dans l'insatisfaction permanente, il faut savoir rester barbare. Ça veut dire quoi, rester barbare ?
C'est tout ce que je viens de vous dire. c'est voilà, ne pas céder. C'est très simple en fait, rester barbare, c'est rester soi-même quoi. C'est-à-dire ne pas faire de compromis à. Quand je dis compromis, comment dire, Zingaro, c'est quand même construit. C'est assez étonnant. Hein, c'est peut-être une des plus grosses compagnies d'Europe, en tout cas quand il tournait, etc. Sans s'appuyer sur aucun apport extérieur, que dans le rapport du vivant. C'est-à-dire de soi et les spectateurs. Il n'y a pas eu de série télévisée autour, il n'y a pas eu de, je sais pas, t'as plein d'artistes qui se sont déclenchés à partir de grands médias en commençant. Nous ça a commencé dans la rue et ça a grandi progressivement avec son public. Moi, vous m'auriez demandé il y a 40 ans, un jour tu vas chorégraphier Sacre du Printemps avec des shows et tout, j'aurais dit, mais ça va pas, c'est impossible. Et spectacle après spectacle, ça a ouvert une porte. On a acquis un savoir, on a approfondi notre discipline, on a découvert notre discipline, on l'a approfondie, et petit à petit, on a découvert qu'on pouvait la décliner de cette manière. Quoi. Et le spectateur aussi. C'est-à-dire que je vais plus loin. Si j'avais été capable, ce qui n'est pas le cas, il y a 40 ans, de commencer par exemple par même Ex Anima, ce spectacle sans cavalier, les gens auraient dit, mais c'est quoi ce truc-là, c'est complètement barjot. Ils ont été prêts à accepter ça. Parce qu'il y a eu tous ces spectacles avant, quoi. Et donc, tu les as formés aussi. Tu t'es formé, tu t'es enrichi, tu t'es approfondi, et le spectateur aussi s'est formé, quoi. Au fur et à mesure. C'est une histoire parallèle, quoi. Vous voyez, par exemple, le rapport à Internet est assez drôle. Moi, je me bats contre ça. Pas parce que je suis un vieux con, ça je suis peut-être, mais souvent on me dit, oui, mais Barthabas, tu te rends pas compte avec tout ce que t'as fait, c'est trop con de pas le faire savoir au monde entier, etc. Je dis, mais moi, ça m'intéresse pas d'être connu. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un petit Chinois dise « Yabarta ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'ils viennent voir le spectacle. Donc j'ai besoin juste d'une certaine échelle pour remplir le spectacle, pas plus. Et c'est à notre échelle, il ne faut pas chercher à s'agrandir. Il ne faut pas chercher à aller s'agrandir pour s'agrandir. Il faut déjà essayer de rester dans son creuset, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire.
Et c'est ici que vous écrivez ?
Non, c'est dans un petit bureau, une petite cabane derrière, là où j'ai tous mes bouquins.
Vous écrivez en ce moment ?
Non. Je prends des notes beaucoup parce que je ne suis pas capable, mon cerveau ne me permet pas d'être en création. C'est-à-dire là, je me couche en pensant voilà, au cabaret de l'exil avec tous les problèmes qu'il y a qu'il faut résoudre. Et je ne peux pas arriver à... Par contre, une fois que le spectacle existe, c'est-à-dire que ce n'est plus que du travail, c'est des horaires de travail, d'être prêt à terre. Là, tu peux te dégager un temps pour... la tête est moins prise, on va dire.
Et là, avant le filage, il se passe quoi ? Tout le monde est en train de se préparer ?
Tout le monde est en train de préparer les chevaux, s'échauffer, voilà, gentiment. Dans le calme, vous voyez, il n'y a pas de bruit. Et ce qui n'est pas très radiophonique, c'est quand vous êtes en coulisses, vous verrez qu'il y a beaucoup de mouvements, parce qu'il y a beaucoup de chevaux, mais personne ne parle, quoi. Pour moi, c'est un truc très important. Tout le monde doit être à l'écoute de ce qui se passe, quoi. S'il y a un truc qui s'est pas bien passé, tu peux pas sortir en t'exclamant. Tu règles tes problèmes après le spectacle, mais pendant le spectacle, ça doit se dérouler de manière la plus... Encore une fois, pour les chevaux, toujours, d'abord. Et puis même, c'est une manière de... C'est un respect pour la concentration nécessaire à la réalisation du spectacle.
Ils viennent d'où ces colliers
C'est des colliers bouddhistes que j'ai fait Lungta avec les moines tibétains du monastère de Guto, qui ont vécu pendant 3 ans avec Zingaro. Donc voilà, la rencontre avec la musique est pour moi très très avec les musiciens, je dirais pour moi très important. C'est l'apport humain qu'il y a dans la compagnie. Tu croises pas seulement des artistes, tu croises des êtres humains, quoi. Et là, il y a un choc de culture qui est assez étonnant, quoi. Quand vous avez des musiciens du Rajasthan qui habitaient avec nous ici, avec leur boucle d'oreille, leur turban et les machins qui partaient dans le métro, je peux vous dire que c'est un certain choc des cultures, quoi. Et c'est assez intéressant, quoi. Ils sont devant une machine à laver, tu leur expliques comment ça marche, t'arrives le lendemain, ils ont tout pété parce qu'ils ont vu le linge tourner. Et les moines, c'est pareil, les moines du monastère, les moines tibétains, c'est des choses qui t'enseignent la vie.
Avant de partir, Barthabas m'a amené là où il écrit, dans son bureau cabane, pas loin de sa caravane.
Parce que c'est un endroit assez incroyable, donc c'est là que vous écrivez et c'est assez chargé de mémoire et d'histoire.
Bah, plus que de mémoire, ça c'est même un bout de ma caravane, mon ancienne caravane que j'ai découpée parce qu'il y avait des vieilles photos que je ne peux plus décoller. Donc j'ai découpé le mur. Non, voilà, puis c'est tous mes bouquins, les compagnies. C'est là que c'est une espèce de cabane, comme vous dites, mais qui est bourrée de souvenirs, d'objets, de... Voilà. Il y a même les cendres de mon frison Zingaro qui sont là, qui attendent les miennes, comme j'ai dit souvent.
Et donc c'est là que quand vous aurez plus de temps pour écrire après la création, vous pourrez revenir.
Voilà, quand on est au Aubervilliers, c'est là que je me mets, je suis tranquille parce que je suis un peu isolé et en même temps, bon, évidemment, je suis pas loin. Et puis par la fenêtre, j'aperçois même des chevaux qui travaillent, donc quand même. Mais
il y a beaucoup de photos, beaucoup de livres, beaucoup d'objets anciens qui ont l'air d'avoir de la valeur et de venir d'un peu partout.
Bah, ils ont de la valeur surtout par amitié, parce que c'est des objets qui m'ont été donnés à droite à gauche, donc c'est des petites choses tout petites. Parce que souvent, quand on me fait des cadeaux, je leur dis toujours, faites-moi des tout petits cadeaux, parce que quand on vit en caravane, on n'a pas beaucoup de place pour mettre des grands tableaux et tout. Ça, c'est un petit fume-cigarette de Mazepa, qui est le thème de mon premier long métrage. Et c'est un cadeau, c'était le fume-cigarette de Georges Donne. Un cadeau de Monsieur Béjart à l'époque. Oui.
Il y a même un magnifique cheval de bois.
Oui, à la bascule, exact.
Et une guitare.
Et à la guitare de Alyosha Dimitrievitch, voilà, qui chantait au Rasputin. Et puis tout ça, c'est... Voilà.
Merci.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, à la prise de son, merci à Yann Frécy, au mixage, à Guillaume Ledu. Merci à Marguerite Capelle pour la traduction.